Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Embarquement immédiat pour aller écouter comment on vit ailleurs. Et ailleurs, en Turquie, les femmes ne sont pas à la fête. Depuis qu'il y a 8 jours, le président Erdogan a décidé, sans débat parlementaire, que son pays quittait la Convention d'Istanbul, qui les protégeait par exemple contre les violences domestiques. Les arguments du pouvoir pour se justifier sont abracadabrantesques et les femmes sont dans la rue. Ailleurs, aux États-Unis, les employés d'un centre Amazon votent pour ou contre la création d'un syndicat. Si le oui l'emporte, ce serait une première et ça pourrait faire tache d'huile. Ailleurs, un peu partout dans le monde, des hommes et des femmes sont discriminés, parfois renvoyés de l'école ou stigmatisés au travail à cause de leurs cheveux. La discrimination capillaire, c'est très sérieux. Et ce petit dossier des carnets nous emmènera au Royaume-Uni, au Japon et au Brésil. Angèle Châtelier nous fera découvrir une artiste suédoise à la musique planante. Quant à Joseph Chovanec, c'est dans les quartiers rouges d'Amsterdam et d'Anvers qu'il nous embarquera. Les carnets sont ouverts et en file direct à Istanbul.
Europe 1, les carnets du monde.
C'était il y a 8 jours, en catimini, en pleine nuit, le gouvernement de Turquie annonçait son retrait de la Convention d'Istanbul. Ce texte du Conseil de l'Europe, c'est tout simplement le premier instrument contraignant au monde pour combattre les violences envers les femmes. Il engage les États qui le signent à légiférer pour lutter notamment contre les violences domestiques, les mariages forcés ou les mutilations génitales. Et ce traité s'appelle Convention d'Istanbul, car il a été signé en 2011 à Istanbul par 45 pays, dont la Turquie. L'argument avancé par le gouvernement turc pour justifier son retrait, c'est que la Convention menacerait les valeurs traditionnelles de la famille, favoriserait le divorce et que l'égalité des sexes qu'il prône ferait la promotion de la communauté LGBT. À l'annonce de la nouvelle, le week-end dernier, une grande manif spontanée a été organisée. Puis cette semaine, des mini-rassemblements ont eu lieu dans les quartiers d'Istanbul avant une nouvelle grande manifestation ce week-end. Cerise Sudri-Ledu a suivi tous ces derniers jours des femmes turques militantes furieuses de ce recul du gouvernement. Reportage.
On ne se taira pas, on n'a pas peur, on n'obéira pas. C'est mon slogan préféré.
Rojda Aksoy a beau avoir passé 30 minutes à s'époumoner dans un haut-parleur, sa voix ne tremble pas. À 33 ans, cette militante de Mordayan Ishma, Solidarité Violette en français, a aidé à organiser un rassemblement de quartier lundi soir à Istanbul, juste au-dessus de la place Taksim. Ce soir-là, il pleut à torrents, la banderole trempée et protégée par quelques parapluies. Mais la trentaine de femmes qui sont là tiennent leur pancarte à bout de bras. On peut y lire « La Convention d'Istanbul est à nous ».
De toute façon, qu'il pleuve ou qu'il neige, rien ne peut nous arrêter parce qu'on est en colère, furieuse. Là, on parle de nos vies.
Les manifestantes sont cernées par des policiers, un camion canon à eau est même stationné un peu plus loin. Il faut dire que la police est sur les dents. Quelques heures plus tôt, des militantes de la plateforme « Nous en finirons avec les féminicides » ont été encerclées par 7 bus de police et embarquées sans ménagement alors qu'elles tentaient de se réunir sur la place Taksim. Rojda, vernis violet soigneusement appliqué sur les ongles, est bien consciente des risques. De nombreuses militantes ont déjà été arrêtées, mais elles s'en fichent.
Les arrestations ne me font pas peur, au contraire. Que ce gouvernement remporte d'autres élections, qu'il s'en prenne aux droits des femmes, aux droits des LGBT, ça me fait peur. Je préfère ne pas y penser. Avoir des problèmes, ça serait les conséquences de mon combat.
La semaine dernière, Rojda a découvert le retrait de la Convention d'Istanbul au réveil, envahi de messages de ses amis. Très vite, un grand rassemblement a été improvisé qui a dégénéré en manifestation de rue pendant plus d'une heure. Depuis, chaque soir, des happenings ont lieu un peu partout dans Istanbul. Et à l'heure du couvre-feu, 21h en Turquie, les citoyens s'emparent de leurs casseroles pour faire du bruit aux fenêtres. Feridée Eralp, l'une des figures de la mobilisation féministe, est convaincue que le mouvement ne va pas faiblir. Il y a de quoi se sentir désespéré, mais il y a aussi beaucoup de raisons d'avoir de l'espoir. Quand vous regardez comment, dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans la société, les femmes en particulier ont résisté aux attaques ces dernières années. Ça serait une erreur de limiter l'influence du mouvement féministe aux simples manifestations. Il a du poids dans la société. Et une fois qu'on connaît quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Regardez la communauté LGBT, elle existe, on ne peut pas effacer cette prise de conscience. Ce jour-là, quand je la rencontre, Feride s'est réunie avec plusieurs militantes de longue date dans un petit local sur la rive européenne d'Istanbul. Ensemble, elles peignent un drapeau de plusieurs mètres de long qui servira lors des prochaines mobilisations. Pour elles, la Convention d'Istanbul est indispensable. Les femmes sont confrontées au sexisme à tous les niveaux de la société et la violence contre elles, voire leur meurtre, est rarement punie.
Un des exemples les plus frappants est celui de cette femme, Cheftab Shaïn, qui avait porté plainte 60 fois contre son mari. Il avait l'interdiction de s'approcher d'elle, mais il est quand même allé chez elle. Et quand la police est venue, il s'est caché dans la sortie de secours jusqu'à ce que la police parte. Puis il est rentré chez Cheftab Shaïn et a mis sa mère dehors. Elle a de nouveau appelé la police qui, même si elle était à 5 minutes, a mis 20 minutes pour arriver. Ils ont dit que c'était une affaire de famille et ont refusé de forcer l'entrée avant d'avoir un ordre du procureur. Et dans ce laps de temps-là, la mère a pu entendre sa fille se faire assassiner à l'intérieur.
Depuis une semaine, la décision du gouvernement turc, au moins 8 femmes ont été tuées en Turquie. Istanbul, Cerise Drelodu, Europe 1.
On retrouve Cerise Sudri-Ledieu à Istanbul. Bonjour Cerise.
Bonjour Sophie.
Malgré la convention d'Istanbul que le gouvernement turc était censé appliquer depuis qu'il l'a ratifiée en 2014, de nombreuses organisations expliquent que les droits des femmes sont bafoués dans le pays.
Oui, Sophie, les féministes demandent sans arrêt l'application de l'article 62-84 qui traduit la convention d'Istanbul dans le code civil turc, car il ne l'était pas. Et puis ici en Turquie, le discours des politiques n'est pas vraiment bienveillant envers les femmes ces dernières années, leur rappelant sans cesse que leur place est bien allée à la maison. La convention d'Istanbul, c'est pour elle un espoir et un soutien légal pour essayer de faire pression sur le gouvernement.
Et comment ce gouvernement turc répond-il à la mobilisation dans la rue ?
Alors, suite au tollé provoqué, y compris dans la communauté internationale, la présidence a assuré qu'elle se préoccupait des violences faites aux femmes, mais qu'elle le ferait à sa manière. Le parti du président Erdogan a fait savoir que serait créée une convention d'Ankara pour remplacer la convention d'Istanbul.
Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce retrait s'inscrit dans un contexte global répressif.
Absolument. Ces derniers jours, le gouvernement a également interdit un parti politique qui est la deuxième force d'opposition au Parlement. Il a aussi limogé le patron de la Banque centrale turque. Alors on peut avancer deux motivations à ce serrage de vis brutal. La première, c'est de détourner l'attention de ces échecs. Résultats économiques désastreux, recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Et la seconde, c'est de donner des gages aux plus conservateurs de son camp, les islamistes, les ultranationalistes. Car Erdogan est en perte de vitesse, dans une récente étude, son parti, l'AKP, ne recueillait que 29% des intentions de vote.
Voilà un contexte qui alimente même la rumeur d'élections anticipées en Turquie. Merci beaucoup Cerise pour ce décryptage. À très bientôt dans les carnets.
Merci Sophie.
Dans un instant, on file aux États-Unis, en Alabama, où des employés d'Amazon essayent de créer un syndicat, une grande première. Le géant Amazon va-t-il être obligé d'accepter un tout premier syndicat dans l'un de ses centres aux États-Unis ? La lutte sociale qui se joue en ce moment pourrait bien avoir des répercussions très importantes dans tout le pays. Depuis le début du mois et jusqu'à demain, les près de 5600 salariés d'un immense entrepôt d'Amazon situé dans l'Alabama doivent décider s'ils veulent créer un syndicat. Amazon n'en a jamais toléré aucun jusqu'ici. Bonjour Aviva Fried.
Bonjour Sophie.
Les employés du centre Amazon de Bessemer en Alabama, donc un état du sud des États-Unis, se prononcent par correspondance jusqu'à demain sur la création ou non d'un syndicat au sein de leur entreprise. En quoi est-ce un moment exceptionnel ?
Alors Amazon, c'est plus d'1,2 million d'employés dans le monde, une centaine de centres de distribution rien qu'aux États-Unis, et vous l'avez dit, aucun syndicat aux États-Unis, contrairement à l'Europe. C'est donc déjà exceptionnel qu'un vote ait lieu à Bessemer. Il y avait eu d'autres tentatives dans d'autres centres qui n'étaient même pas arrivés au vote. Mais là, plus de 30% des salariés ont dit qu'ils voulaient voter, et donc, selon la loi, il n'y a pas d'autre choix que d'organiser ce référendum, une étape crucial pour les partisans du oui, qui espèrent qu'un syndicat les aidera à changer les conditions de travail chez Amazon.
Alors, quelles sont ces conditions de travail justement et comment ceux qui souhaitent cette syndicalisation font-ils campagne ? Aviva, vous avez suivi une manif ces derniers jours près du fameux centre de Bessemer. On écoute votre reportage.
Oui, non. Syndicat aujourd'hui, syndicat demain, syndicat pour toujours.
Ce cri, c'est celui des manifestants rassemblés près du centre d'Amazon à Bessemer. En cet après-midi ensoleillé, ils sont une cinquantaine sur un terrain vague entre quelques hôtels de bord d'autoroute et une station-service. Une tente a été dressée, on y distribue des tracts en soutien aux employés d'Amazon. Les participants brandissent aussi des panneaux sur lesquels on peut lire « Oui au syndicat ». Curtis Gray est un responsable du syndicat des détaillants et des grossistes, le RWDSU. Il est fier de participer à un moment important.
Il est temps de faire renaître les syndicats. Ça fait des années qu'ils sont au plus bas. Ça va montrer l'exemple pour les remettre sur pied.
Petit à petit, d'autres personnes arrivent sur le lieu de rassemblement. Beaucoup de familles avec de jeunes enfants ou des personnes plus âgées, vétérans des luttes syndicales. Un gigantesque bus, aux couleurs du mouvement Black Lives Matter, fait un tour d'honneur avant de déverser ses occupants. Car la manifestation du jour a été organisée par BLM. Rien d'étonnant quand on sait que plus de 80% des employés d'Amazon à Bessemer sont noirs. La lutte syndicale est aussi une lutte contre les inégalités raciales. C'est le message que veut faire passer la représentante de Black Lives Matter, Angela Angel.
Les vies noires comptent, pas seulement dans le système judiciaire, mais aussi au travail. Les noirs sont importants dans tout ce qu'ils font en tant qu'employés. Peu importe qu'on essaye de les faire taire, peu importe qu'ils s'attaquent à la plus grande société de l'histoire du monde, ils continueront à se battre.
Dans un grand concert de klaxons, la manifestation se transforme en caravane de véhicules qui passent et repassent devant l'immense hangar abritant l'entrepôt d'Amazon. Parmi les militants, très peu de salariés d'Amazon qui ont trop peur des possibles représailles de l'entreprise. Alors, c'est dans les locaux du syndicat des détaillants et grossistes, à une trentaine de kilomètres de là, que nous rencontrons Daryl Richardson. Il travaille chez Amazon depuis un peu plus d'un an. Son regard désabusé témoigne de la vie difficile que mène cet Afro-Américain de 51 ans.
Mes horaires, c'est de 7h15 à 17h45. Des journées de 10-11 heures avec seulement deux pauses. L'écran de l'ordinateur nous indique où il faut aller chercher les produits. De 7h15 à 17h45, je cherche pour Amazon plus de 3500 produits au moins. C'est fatigant. Mes poignets me font mal, mes jambes sont douloureuses. J'ai des crampes aux mains. Parfois, les crampes sont tellement fortes que je n'utilise qu'une main pour soulager l'autre. C'est sans doute parce qu'on ne boit pas assez. Tout votre corps vous fait souffrir et quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez rien faire d'autre que dormir. Vous êtes trop fatigué pour manger. Tous les jours, on se donne à 110% pour Amazon, mais on ne se sent pas valorisé.
En parlant de ses conditions de travail, Daryl Richardson serre nerveusement ses mains, signe de ces douleurs qui l'accompagnent tous les jours. Du côté d'Amazon, on se vante pourtant d'offrir aux employés des conditions exceptionnelles pour un salaire minimum de $15,30, soit deux fois le minimum légal. Un argument utilisé par l'entreprise pour dissuader les salariés de se syndiquer. Amazon a multiplié les réunions antisyndicales pour convaincre les employés de voter non.
Ce qu'il disait pendant ces réunions anti-syndicats, les syndicats veulent seulement vos cotisations, ils ne peuvent vous donner aucune garantie, ils vont vous prendre vos avantages, votre salaire. Avec vos cotisations, ils vont s'acheter de nouvelles voitures. Moi, je leur ai demandé pendant ces réunions, si les syndicats sont aussi mauvais, pourquoi vous faites tout votre possible pour qu'ils ne viennent pas ici ?
Mais les arguments d'Amazon semblent avoir fait mouche auprès de certains salariés. Alors que la caravane de Black Lives Matter roule toujours, Lavonette Stokes s'est postée sur le bord de la route devant l'entrée de l'entrepôt, avec une pancarte qui affiche le message « Syndicat, trouvez une autre vache à lait ». Pour elle, ceux qui réclament un syndicat font des caprices d'enfants gâtés.
Je pense que beaucoup de ceux qui sont mécontents le sont parce qu'ils s'écoutent trop. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je n'y passe pas 30 minutes en plus des deux pauses de 30 minutes qu'on nous donne, comme le font de nombreux jeunes employés. Ils ne sont pas sérieux, ils discutent entre eux, ils ne font pas ce pour quoi ils sont payés, c'est-à-dire emballés.
Daryl Richardson, lui, veut croire que la syndicalisation va l'emporter, mais il craint que la précarité des emplois chez Amazon ait découragé plus d'un salarié peu soucieux de faire des vagues. Lui-même redoute des mesures de rétorsion.
Chaque fois que je vais au travail, je me demande ce qu'ils vont me faire. Est-ce que je vais être viré aujourd'hui ? Ils vont trouver une raison de se débarrasser de moi. J'y pense tout le temps. Mais tant que je pense faire ce qui est juste pour améliorer les choses pour tout le monde, je ne regrette rien.
Si jamais son vœu est exaucé et que le oui l'emporte, cela créera un précédent qui pourrait conduire à la syndicalisation dans tous les entrepôts d'Amazon aux États-Unis. À Bessemer, à Aviva Fried, Europe 1.
Retour dans le studio, toujours avec vous Aviva, vous êtes en ligne avec nous depuis les États-Unis. Alors on l'a dit, ce vote pourrait servir de précédent et annoncer l'arrivée de syndicats dans les autres entrepôts Amazon. Est-ce que l'entreprise serait alors une exception aux États-Unis et en fait quel rôle les syndicats jouent-ils dans le pays ?
Alors les syndicats ont joué un rôle important, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Certaines fédérations syndicales étaient toutes puissantes, comme le syndicat des routiers ou celui des dockers. Mais en 1981, Ronald Reagan, en brisant la grève des contrôleurs aériens, a porté un coup sérieux au mouvement syndical. En 30 ans, on est passé de 20% de syndiqués aux États-Unis à un peu plus de 10% aujourd'hui. Plus de la moitié des États américains ont également voté des lois interdisant l'obligation de se syndiquer pour travailler. Et des décisions de justice, y compris de la Cour suprême, ont été récemment très favorables aux employeurs. Mais cela pourrait changer, car Joe Biden est réputé pour être pro-syndicat.
Voilà, un président pro-syndicat qui a apporté d'ailleurs son soutien aux employés de Bessemer. Mais comment cela va-t-il se traduire sur le plan politique et dans la pratique ?
Alors au cours de sa campagne, Joe Biden s'est engagé à mettre fin à ce qu'il appelle la guerre contre les syndicats et à lancer des réformes profondes. Il veut par exemple que l'État fédéral puisse intervenir pour garantir les négociations entre syndicats et patronat, là où bien souvent les employeurs jouent la montre pour ne pas céder. Il veut élargir le droit de grève ou encore revenir sur ces lois dont on a parlé qui interdisent l'obligation de se syndiquer. Et bien sûr, il veut augmenter le salaire minimum fédéral de $7,25 à $15. Alors bien sûr, avec un Sénat très divisé, de telles réformes semblent ambitieuses. Il a d'ailleurs déjà dû remiser l'augmentation du salaire minimum. Mais il a tout de même adressé un signe très fort aux salariés, son tout nouveau ministre du Travail et lui-même un ancien leader syndical.
Voilà, fort de toutes ces explications, on va suivre avec un grand intérêt cette consultation aux enjeux qui dépassent l'entrepôt Amazon de Bessemer en Alabama. On l'a bien compris. Merci beaucoup Aviva. À bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
À suivre, une découverte musicale. On accueille Angèle Châtelier dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Et si on s'offrait un petit moment d'évasion, ça vous dit ? La page culture des carnets aujourd'hui, c'est de la musique. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Sophie.
C'est vous qui nous faites ce cadeau. Vous nous emmenez en Suède et dans la pénombre avec la chanteuse Frédérika Ståhl.
Qu'est-ce que la nuit, Sophie ? L'espace des rencontres avinées parfois, de la rêverie ou le moment de toutes les élucubrations de l'esprit. Ce nouvel album de Frédérika Ståhl a été conçu, composé et pensé pendant la nuit. Son nom était donc évident, Natten, qui veut dire nuit en suédois. Victor Hugo disait dans Les Misérables, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Et heureusement, car il arrive que les nuits ne soient pas douces ni enveloppantes.
Ouais, il arrive que nos questions, des inquiétudes nous empêchent de dormir.
Et oui, nos amours aussi, présents ou déchus. Frédérika Ståhl semble s'y être penchée pendant ses insomnies, en témoigne sa chanson « Rescue Me, sauve-moi ».
Alors Angèle, qui est-elle cette Frédérika Ståhl, en plus d'être amoureuse ?
Eh bien c'est une artiste suédoise accomplie, Natten est son 5e album. En France, beaucoup l'ont connue en 2015 grâce au film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Frédérika Ståhl en signait la bande originale Délicate. Si Frédérika Ståhl est pianiste, dans certains titres de son nouvel album Natten, ses notes de piano sont dissimulées, sublimées dans des chœurs et d'autres sonorités.
Hungry, empty eyes, born on the wrong side. People in the back row fighting for a
Pour la première fois dans cet album aussi, Frédéric Astal chante en français sur un texte de Dominica. Nous parlions de la nuit tout à l'heure. Ce titre ne déroge pas à la règle et s'appelle finalement La Nuit, dans lequel leurs deux voix se mélangent. On parle avec beaucoup de sarcasme parfois d'albums d'artistes comme étant l'album de la maturité, vous savez. Eh bien, je dirais que celui-ci, pour Frédéric Astal, est celui de l'indépendance, de l'acceptation de soi. Car elle s'est détachée de ses chaînes en créant son propre label pour le produire, cet album, qui s'est construit sur plusieurs années. La chanson qui le ponctue, par exemple, a été écrite il y a 5 ans.
La voix cristalline de la Suédoise Frédérika Ståhl et son 5e album écrit et composé, La Nuit. Parfait donc pour la rêverie.
Exactement.
Merci Angèle. Merci de ce joli conseil d'écoute.
À bientôt.
À suivre, un petit dossier qu'on vous a concocté avec les correspondants d'Europe 1 sur un sujet dont on parle assez peu en France, les cheveux. Une question parfois douloureuse et toujours liée à l'affirmation de son identité. On parle de discrimination capillaire. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est le petit dossier du jour dans les carnets sur une thématique qui peut vous sembler surprenante, mais qui dit beaucoup de choses des sociétés. La discrimination capillaire va nous emmener dans 3 pays sur 3 continents. Et on file d'abord à Londres, car là-bas, outre-Manche, la discrimination des cheveux afro mobilise. En décembre dernier, la multinationale Unilever, qui est l'un des plus gros employeurs du pays, s'est engagée contre la discrimination capillaire. L'entreprise a signé le Halo Code, une sorte de charte de bonnes pratiques assurant les employés noirs de leur liberté de se coiffer comme ils le souhaitent, avec afro, dreadlocks, tresses ou perruques. On retrouve notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs.
Bonjour Sophie.
D'où vient ce Halo Code signé par Unilever ?
Alors c'est une charte qui énonce que les cheveux afro sont partie intégrante de l'identité raciale et culturelle des personnes noires et qu'ils doivent être acceptés sous n'importe quelle apparence. Déjà 127 entreprises et 60 établissements scolaires ont adopté ce Halo Code au Royaume-Uni et à l'origine c'est un groupe de 5 lycéens qui ont inventé et rédigé cette charte. Chacun d'entre eux a vécu une certaine forme de discrimination, comme Katiane, 16 ans, qui m'a répondu depuis chez elle à cause de la pandémie.
Les gens me dévisageaient, certains me disaient que j'avais les cheveux en désordre, que c'était la jungle, que je devais les peigner parce que j'ai vraiment une grosse touffe qui ressemble à un nid d'oiseau. Et aujourd'hui, c'est toujours courant d'entendre qu'on a les cheveux ébouriffés, que notre chevelure n'est pas professionnelle. Mais il n'y a pas tellement de preuves de cette discrimination. C'est un problème largement ignoré, notamment car les gens sont découragés de se battre. On est déjà lassés par les remarques, les exclusions. Beaucoup de Noirs vont donc simplement se faire des tresses ou bien se lisser les cheveux juste pour un entretien d'embauche, car ils savent que sinon, ils ne seront pas jugés professionnels.
Voilà, une discrimination invisible, hein, difficile à prouver, mais qui existe bel et bien, même si, comme en France, c'est contraire à la loi, hein, n'est-ce pas Anaïs ? Il faut le préciser.
Oui, tout à fait. Au Royaume-Uni, c'est écrit noir sur blanc dans la loi Equality Act. Toute discrimination liée à la race est interdite. Et pourtant, selon une récente étude, ici, 93% des personnes noires se disent victimes de micro-agressions liées à leur apparence capillaire.
93%. Et c'est le cas aussi jusque dans certains établissements scolaires.
Oui, en Grande-Bretagne, vous savez, les écoles ont souvent des règles strictes sur la tenue vestimentaire et l'apparence physique. Et ces règles visent parfois les cheveux afro. Je me suis intéressée au cas de Ruby, une jeune collégienne de Londres qui a été renvoyée à plusieurs reprises à cause de sa coupe. C'était en 2017. Selon le règlement intérieur de son école, une coupe afro devait être, je cite, de taille raisonnable. Écoutez Kate, sa maman.
Leur argument, c'était de dire que ses cheveux pourraient boucher la vue du tableau ou du professeur aux autres élèves. Un professeur a même demandé à Ruby si elle avait pensé à lisser ses cheveux avec des produits chimiques. Je me suis vraiment mise en colère et je leur ai demandé « Mais est-ce qu'on est retourné au temps de l'esclavage et personne ne m'aurait prévenu? Vous voulez que je prenne mes enfants dans le jardin et que je leur rase la tête? Ce sont juste ses cheveux au naturel, la manière dont ils poussent sur sa tête. Comment cela peut-il enfreindre le règlement ?»
Pour éviter d'être renvoyée systématiquement, Ruby finit par se faire faire des tresses. Mais cela coûte cher et ça abîme ses cheveux.
Quand je l'emmenais à l'école, je voyais ces autres jeunes filles, toutes mignonnes, avec leurs cheveux longs qu'elles faisaient tournoyer. Et je me disais, ils ne considèrent pas mon enfant comme l'égal de ces filles. D'une certaine manière, ma fille est sous-humaine, car on la force à changer son apparence corporelle quand les autres enfants sont libres.
On imagine, Anaïs, que ça a dû avoir un impact sur le moral de cette collégienne.
Exactement. À force de réprimandes de professeurs, l'état émotionnel de Ruby s'est dégradé au point de ne plus aller à l'école sur les conseils du médecin de famille. L'adolescente a préparé son brevet seule à la maison, une période qui a traumatisé toute la famille.
Elle est devenue très anxieuse. Elle a fait des crises de panique et elle a fait une dépression. Excusez-moi. Je la revois encore se regarder dans le miroir et dire « Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment ressembler à ce qu'ils attendent de moi ?» Et bien sûr, elle ne pouvait rien y faire, c'est très dur à vivre.
Voilà, témoignage très poignant de la mère de Ruby. La suite, c'est que la famille a poursuivi l'établissement et après 3 ans de bataille judiciaire, Ruby a obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts et l'école a été forcée de modifier son règlement. Dans un autre établissement londonien, Anaïs, le principal que vous avez joint a carrément décidé de supprimer toute référence aux cheveux dans le règlement intérieur.
Oui, ce proviseur a été choqué de voir à quel point certaines de ses élèves, y compris les plus brillantes et volontaires, se faisaient réprimander par les professeurs à cause de l'apparence de leurs cheveux afro. À l'époque, le règlement intérieur spécifiait que les cheveux, quelle que soit leur nature, devaient être nets et en ordre.
Les cheveux de type africain et les cheveux de type européen poussent de manière très différente. Si la personne qui décide de ce qui est net et en ordre ne comprend pas la différence entre les deux, alors elle porte un jugement de valeur de blanc sur les cheveux. Les écoles sont des institutions qui appartiennent à la société. Et le problème, c'est que notre société est encore imprégnée de racisme et fondée sur ce passé de suprématie blanche. Et si la société est encore raciste, les écoles le sont aussi. Et ce n'est pas forcément conscient, mais ça tient aux personnes qui créent et dirigent les établissements scolaires.
Voilà, le changement commence à l'école, suggère ce proviseur. Est-ce que le monde de l'enseignement s'est saisi de la question globalement, Anaïs ?
Oui, ça commence. Il existe depuis quelques années une journée mondiale, le 15 septembre, le World Afro Day, dédiée à la célébration des cheveux afro et à la sensibilisation contre la discrimination. Une campagne soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et grâce à laquelle, il y a quelques mois, fin 2020, les plus grands syndicats britanniques de professeurs se sont prononcés pour la fin de la discrimination capillaire à l'école.
Voilà, prise de conscience dans les écoles et dans les entreprises, on l'a entendu. Merci beaucoup Anaïs, à bientôt.
Merci Sophie.
Et c'est au Japon qu'on file maintenant. Pas de cheveux afro là-bas, mais un pays obsédé par l'homogénéité, qui est vu comme un gage d'harmonie de la société, de vivre ensemble si vous voulez. Et on va voir que ce souci de conformisme passe notamment par les cheveux. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Chez vous, les écoles interdisent à leurs élèves de se teindre les cheveux, ça ferait mauvais genre. Et elles vont jusqu'à forcer les enfants qui ont les cheveux naturellement un peu plus clairs, châtains, à se les teindre en noir.
Oui, et souvent, ces enfants finissent par avoir des problèmes capillaires ou de cuir chevelu à force de devoir se teindre les cheveux à longueur d'année. Certaines écoles essayent de biaiser, mais pas de manière satisfaisante selon cette association de parents qui réclame l'abrogation des règlements scolaires de ce type.
Dans la moitié des écoles qui appliquent ce règlement capillaire, les parents des élèves concernés ont une échappatoire. Mais nous la trouvons à la fois humiliante et exagérément intrusive. Leur enfant ne sera pas contraint à se teindre en noir s'ils remettent à l'école ce qu'on appelle un certificat d'authenticité capillaire, c'est-à-dire une attestation prouvant que leur enfant a naturellement des cheveux d'une autre couleur que masque noir. Pour que ce document soit pris en compte, il faut impérativement lui joindre des photos de famille de l'élève prises quand il était bébé.
Un certificat d'authenticité capillaire, on croit rêver, mais c'est la règle au Japon. Hein. Les cheveux noirs pour tout le monde, les cheveux lisses aussi. Donc ceux qui bouclent naturellement sont obligés de se lisser les cheveux. Et Bernard, l'école a aussi son mot à dire sur les coupes de cheveux ou sur les coiffures des élèves.
Voilà, pour les filles, la règle, c'est pas de cheveux trop longs, ils doivent être au-dessus de l'épaule. La queue de cheval, certaines écoles l'acceptent, mais pas toutes. Les couettes, en revanche, ça c'est pas permis, c'est considéré comme ingénu. Pour les garçons, c'est pas de cheveux dans les yeux. Une coupe courte donc, mais pas trop courte. La boule à zéro est réservée aux moines bouddhistes ici. Et puis, surtout pas la coiffure à la mode en ce moment en Asie, la coupe deux blocs, comme on l'appelle, très court sur la nuque et les côtés, et plus long au-dessus du crâne. Ça, c'est complètement interdit à l'école. Enfin, pour les garçons comme pour les filles, pas question d'utiliser du gel capillaire.
Et cette sévérité vaut aussi en dehors de l'école. En fait, elle est mise également dans le monde de l'entreprise, pour les adultes.
Oui, au Japon, hormis si vous travaillez sur des chantiers ou dans des entrepôts, par exemple, ou alors dans des secteurs comme la mode, le showbiz ou la culture, qui sont plus ouverts, il n'est pas question d'aller au boulot avec les cheveux peroxydés ou permanentés, avec une coupe excentrique ou même juste un peu originale. Là aussi, la règle, c'est les cheveux noirs et lisses, point.
Alors, qu'en pensent les Japonais de cette discipline capillaire? C'est la question que vous avez posée dans la rue, on écoute.
Je trouve ces règlements complètement nuls.
Dès que j'aurai reçu mon diplôme, je demanderai à mon coiffeur de me faire une coupe de bloc.
Dans mon entreprise, les coupes de cheveux un peu originales ou les colorations ne sont hélas pas permises. C'est jugé à guicheur.
C'est bien de fixer des règles. Ça n'irait pas si tout le monde faisait n'importe quoi avec ses cheveux. L'homogénéité, l'harmonie, ça me paraît mieux.
Cette sévérité illustre combien dans ce pays on est toujours prié de marcher droit, de ne pas sortir du rang. Moi, je trouve qu'on devrait laisser aux gens la liberté, via leur look, de faire preuve de créativité et donc d'exprimer leur personnalité.
Alors, on l'entend, hein, beaucoup de Japonais trouvent ces règlements trop sévères et pourtant, ils les appliquent, pas le choix.
Non, pas le choix. Dans cette société très normative où règne une pression sociale étouffante, on est prié d'avoir toujours un comportement irréprochable. Pour autant, certains parents d'élèves châtains ou frisés ont traîné en justice l'école de leurs enfants. Mais chaque fois, ces plaignants ont été déboutés. Les tribunaux ont jugé ces règlements scolaires, je cite, « raisonnables et établis pour des raisons éducatives légitimes ».
Ouais, c'est vraiment ancré profondément. Merci Bernard pour ce petit coup de projecteur japonais et à bientôt dans les carnets.
Merci Sophie, à bientôt.
Les cheveux dans tous leurs états, la suite de ce petit dossier dans un instant. Et c'est au Brésil qu'on va se retrouver dans un salon de coiffure un peu particulier. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Quand les cheveux sont un motif de discrimination dans son école ou dans son travail, c'est la suite de ce dossier des carnets. Et après les exemples édifiants entendus en Grande-Bretagne et au Japon, c'est donc au Brésil qu'on pose le micro. Là-bas, plus de la moitié de la population est noire et subit encore bien souvent le racisme au quotidien. L'une des conséquences, beaucoup de Brésiliennes jusqu'ici singeaient les modèles de beauté dits européens, notamment au niveau de leur coiffure. Mais c'est une tendance positive qui s'affirme de plus en plus. Les Brésiliennes redécouvrent leurs cheveux afro et n'hésitent plus à les montrer. Reportage dans un salon de coiffure, lieu d'affirmation de leur identité. On se met dans les pas de Marie Modacher.
L'espace est plutôt agréable avec ses murs en briques apparentes, ses grandes baies vitrées et ses plantes grimpantes, sans oublier le bruit caractéristique des salons de coiffure, le sèche-cheveux. Mais ici, la majorité des clients viennent chercher un savoir-faire particulier réservé aux cheveux crépus.
Elle avait les cheveux très longs et un jour, elle a tout rasé. Ça a été radical. Aujourd'hui, elle est venue pour faire les finitions. Comme elle a les cheveux très courts, elle vient régulièrement pour l'entretien. Là, je suis en train de lui laver les cheveux. Elle aime bien que je la peigne comme ça, sur le côté. Avec un peu de gel, et elle a fini.
Cette coupe radicale dont parle Sylvia, c'est ce qu'on appelle carrément une transition capillaire. Après des années de traitement chimique très agressif, les Brésiliennes décident de découvrir leurs vrais cheveux et d'apprendre à en prendre soin. C'est la spécificité de ce salon. Caroline s'apprête à partir avec sa coupe toute courte et ses cheveux décolorés blond platine.
Depuis que j'ai fait ma transition, cette coupe doit être ma 152e. J'ai lissé mes cheveux à partir de mes 12 ans. temps avec des produits pour annuler leur volume et les allonger. Ensuite, j'ai suivi la mode des progressives pendant 5 ans. Je faisais des lissages brésiliens et ça a été le dernier processus chimique auquel j'ai soumis mes cheveux. J'ai décidé de découvrir mes propres cheveux.
Il existe plusieurs méthodes pour laisser repousser les cheveux. Carolina a choisi le big chop, c'est-à-dire raser très court pour un nouveau départ.
C'est à 32 ans que j'ai découvert mes cheveux. La mémoire de mes vrais cheveux remontait à mon enfance, quand ma mère ou ma grand-mère me coiffait. Et au cours de cette transition, on comprend que nos cheveux sont beaux et forts et qu'ils offrent de multiples possibilités. J'adore changer de coupe. Je les ai eus longs, colorés, tressés, rasés d'un côté. C'est un processus très puissant pour nous, les femmes noires. Parce que les modèles de beauté blanche écrasent nos corps de femmes noires. Ça m'émeut de me libérer de ça et d'aimer ce que je vois dans le miroir. Pour moi, ça a été très lié à la découverte de ma négritude. Je suis une femme noire à la peau claire et j'ai mis du temps avant de me voir comme une femme noire.
Pour les Brésiliennes qui décident d'amorcer cette transition, ne plus toucher à ses cheveux peut s'avérer douloureux. La pandémie a permis à certaines de s'affranchir du regard des autres pendant quelques mois et aucune ne regrette. Les femmes qui m'ont raconté leur histoire partagent une certaine fierté qui va bien au-delà de l'esthétique. Pour Laura, la décision a été motivée par une question de santé. À cause d'un dérèglement hormonal, ses cheveux déjà fragilisés par des années de lissage ont commencé à tomber. Alors elle a décidé de les laisser pousser jusqu'à arriver à des cheveux très frisés, mi-longs, souvent attachés.
Mon mari m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas ta transition ? Ça va faire mal, ça va être difficile, tu vas être horrible, mais je vais t'aider. » J'ai été bien moche, hein. Il me coupait un peu les pointes tous les deux mois. Et là, vous voyez, mes vrais cheveux frisés. Je n'ai plus ces horribles trous sur le crâne. Vous pouvez toucher, hein ? Regardez, ils sont propres et doux. Je vais être sincère, hein. Je suis en train de m'habituer, mais c'est vraiment pratique. Je peux me réveiller, m'attacher les cheveux et sortir sans passer des heures à me faire un brushing parce que ça fait plaisir à la société. Donc je les aime un peu plus chaque jour. Un jour, ce sera de l'amour, mais c'est dur.
Au Brésil, chaque citoyen déclare la couleur de sa peau lors du recensement qui a lieu tous les 10 ans. Et au dernier recensement, Laura s'était déclarée blanche. Désormais, elle se reconnaît comme métisse.
Avoir les cheveux lisses donne l'impression d'être un peu plus blanc, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez vous coiffer comme Pocahontas, mais votre couleur ne change pas. Sur mon acte de naissance, il est écrit blanche. Mais mon père est noir, ma mère blanche. Je ne me vois pas comme blanche et ma transition capillaire m'a rapprochée de ce que je suis. À mes yeux, je suis marron. Si je naissais aujourd'hui, je mettrais métisse sur mon acte de naissance.
L'idée de ce salon, Meu Cabelo Natural, mes cheveux naturels, vient de Carla, qui porte court ses cheveux gris. À l'origine, elle est professeure d'histoire et aujourd'hui thérapeute capillaire. Elle peut parler pendant des heures des différents types de cheveux frisés ou crépus, qui, contrairement aux idées reçues, sont plus fragiles que les cheveux lisses. Alors Carla se fait des masques à base de plantes brésiliennes, d'huile végétale, et elle dort même sur une taie d'oreiller en satin, comme un écrin pour protéger les boucles de ses cheveux. À São Paulo, Marino Dacher, Europe 1.
Voilà le mouvement de libération des cheveux version brésilienne. On poursuit cette petite exploration avec le directeur de l'Observatoire des discriminations à la Sorbonne. Bonjour Jean-François Amadieu.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez écrit plusieurs livres sur le poids des déterminants physiques dans la société. Le dernier s'appelle « La société du paraître, les beaux, les jeunes, trois petits points ». Et les autres, publiés chez Odile Jacob. Alors, on vient d'évoquer la particularité des cheveux afro, mais aussi des cheveux forcément noirs et lisses des Japonais. Question couleur, quid du combat entre blondes et brunes ?
Alors, il y a toujours une prime pour les blondes. On sait qu'elles séduisent davantage, mais au travail, c'est la même chose. Alors, ça n'est vrai que lorsque on occupe un poste qui n'est pas trop rémunérateur. Donc là, une blonde va gagner 7% de plus.
7%,
à peu près, 7%, ça correspond à peu près à une année d'études. Ça vaut la peine de faire une coloration. Mais en revanche, quand c'est un poste de management, de direction, là, ça n'est plus vrai. Et on s'aperçoit que les blondes peuvent même être défavorisées, elles sont moins prises au sérieux. Et là, les brunes prennent leur revanche, et même les rousses, parce que les rousses, finalement, sont beaucoup plus souvent dirigeantes.
On est plus crédible quand on est brune ou rousse à des postes de management, c'est ça ?
C'est ça, parce que on a l'air au fond moins dans la séduction, peut-être moins féminine, et vous savez que le management, ça reste évidemment une affaire d'hommes.
C'est terrible, on croit que c'est des idées reçues, et en fait c'est complètement vérifié dans les relations sociales. Ça veut dire qu'il y a des blondes qui parfois se teignent en brunes si elles veulent progresser dans leur boulot ?
Alors, oui, c'est possible. Alors, on sait aussi qu'il y a aussi un autre sujet, bien sûr, c'est quid des stigmates du vieillissement et comment après, bien sûr, on modifie aussi sa couleur de cheveux. Mais il est certain qu'il y a des stratégies différentes des femmes selon le niveau auquel on se situe. Alors, il y a aussi autre chose. N'oublions pas qu'il y a les coupes de cheveux.
Ouais.
Alors, c'est de plus en plus étudié dans le monde entier parce que, évidemment, c'est très important pour envoyer une image professionnelle ou pas.
Il y a des pays plus tolérants que d'autres ?
Alors, oui, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que la France est un pays intolérant. Bon, disons les choses autrement, la France, c'est le pays par excellence où on juge sur le paraître. Voilà. Beaucoup plus que finalement chez les Américains. Donc, chez nous, évidemment, on va beaucoup s'attacher à tout ce qui est le maquillage, les vêtements, les coupes de cheveux, etc. Donc, c'est très important dans la société française. Et c'est pas par hasard si nous avons des fleurons du cosmétique, de la beauté dans nos entreprises. Les Français jugent beaucoup sur ces critères. Vous savez aussi que, et d'ailleurs heureusement, la France est d'ailleurs le seul pays au monde qui a prévu dans sa législation que l'apparence physique, donc par exemple les couleurs de cheveux, les coupes de cheveux, c'était un motif de discrimination reconnu dans la loi. C'est le seul pays au monde qui fait ça.
Jean-François Amadieu, il existe moult associations pour saluer la beauté de tel ou tel cheveu. Il y a la World Afro Day, la journée mondiale pour célébrer les cheveux afro, mais on entend souvent des sarcasmes, des ricanements, ce seraient des combats futiles, pensent certains à voix haute.
Non, du point de vue du combat à la fois ethno-racial, pour parler clair, identitaire, c'est évidemment important pour ceux qui veulent le mener. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis, en Angleterre, comme vous l'avez montré. De fil en aiguille, on en arrive à permettre aux gens d'être plus libres dans leur apparence physique. Ils ont le droit d'avoir telle coupe de cheveux, telle couleur, d'être gros ou pas, etc. Et d'avoir ou pas des tatouages, des piercings, etc. C'est au fond une entreprise de libération. Il y a moins de contraintes. C'est ce qu'on observe beaucoup actuellement. Alors là, via ce type d'association, d'événements. Donc derrière le côté qu'on peut critiquer, qui est un petit peu d'affirmation identitaire et communautaire, ça c'est très américain sur une base raciale, il y a quelque chose qui, évidemment, est intéressant lorsque ça va déboucher sur plus de liberté, de se coiffer comme on veut au travail. Ça, c'est plutôt positif.
Voilà, et aujourd'hui, on évoque les cheveux seulement, mais ce n'est qu'un des 25 motifs de discrimination que vous étudiez au sein de cet observatoire que vous dirigez à la Sorbonne. Merci beaucoup, Jean-François Amadieu, pour votre éclairage. Au revoir.
Au revoir.
Et on accueille un grand chevelu dans un instant, Joseph Chovanec. Il nous guide en autistan.
Europe 1, les carnets du monde.
Comme chaque dimanche, la dernière vadrouille nous mène vers l'autistan, cette manière singulière de décrypter le monde qui nous entoure. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Joseph Chovanec, bien sûr, chroniqueur des carnets à la triple casquette, philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur. Alors ces derniers temps, à cause des restrictions de mobilité, vous arpentez beaucoup le Benelux, Joseph, puisque votre port d'attache c'est la Belgique, et vous redécouvrez les vieux quartiers des grandes villes alentours.
Oui, Sophie, le cœur historique de certaines villes est occupé par de belles églises, de beaux monuments, mais aussi par les quartiers dits rouges.
Ce qu'on appelle quartiers rouges, ce sont les quartiers de prostitution.
Voilà qui est dit. Hein. Mais l'une des conséquences du Covid aura été la fermeture ou la suspension de ces activités. Désormais, les quartiers dits rouges sont vides et donc place aux autistes explorateurs. Avant le Covid, je n'osais pas trop y aller, j'avais peur. Et par ailleurs, ces quartiers avaient perdu de leur magie historique. Et je suis loin d'être le seul. Pour beaucoup d'habitants du coin, c'est le soulagement. Je ne compte plus dans la presse, mettons néerlandaise, les articles sur les habitants de la ville qui peuvent la découvrir ou redécouvrir.
Elles étaient surtout envahies de touristes. Ce sont les quartiers chargés d'histoire.
Oui, parce que Sophie, une remarque s'impose. Contrairement à une croyance répandue, le fameux quartier rouge d'Amsterdam ou d'Anvers, qui est un peu la petite sœur d'Amsterdam, n'est pas un mauvais quartier. Au contraire, le quartier des Wouwlands, c'est le nom local, est au cœur même de la métropole, le long de l'Amstel. C'est la rivière qui a donné le nom à Amsterdam, littéralement barrage sur l'Amstel. Hein. On y trouve la plus forte concentration de vieilles maisons, vieux bâtiments de toute la ville. Et c'est plus ou moins le même cas à Anvers. Le quartier rouge est autour de la Fingerlinstraat, un jet de pierre de la cathédrale, du fabuleux hôtel de ville. De l'autre côté, il y a le port d'Anvers, plusieurs musées et l'université à quelques pâtés de maisons.
Vous avez l'air de connaître pas mal. Un petit conseil d'un lieu à ne pas rater, s'il vous plaît.
Oh, dans le quartier rouge d'Amsterdam, c'est la vieille église qu'il faut voir, la Oude Kerk. C'est l'un des rares endroits où vous puissiez voir les choses à peu près exactement dans le même état que quand Rembrandt s'y promenait le jour de son mariage. Avec l'espèce de maladresse architecturale ponctuelle avec laquelle on détecte les bâtiments authentiques, par exemple dans le plafond de bois. Hein. On peut suivre maison après maison les histoires, non pas des grands rois, mais des petites gens, de tel ou tel marin parti à jamais en mer, de tel ou tel meurtre impuni. Et la nuit, il y a un faible éclairage des ruelles vides qui crée une ambiance assez féerique. Pour moi, c'est un peu analogue à des nuits du Moyen-Âge, quand l'éclairage était rare et cher.
Alors justement, est-ce que la lumière rouge de ces quartiers, parce qu'elle est rouge, est liée au néon qui éclairait les échoppes des prostituées?
Oui, c'est une hypothèse que le rouge entretenait un certain mystère sur le physique des dames. Mais une autre hypothèse, c'est l'implantation du siège de la Red Star Line, compagnie maritime historique dans le quartier rouge d'Anvers. Une autre serait celle des artisans à Amsterdam, dont les verres colorés des lanternes jouaient sur les façades des vieilles maisons. Et d'ailleurs, l'ambiance à la tombée de la nuit dans le quartier rouge d'Amsterdam est proche de celle des béguinages historiques de Hollande. On en avait déjà parlé.
En tout cas, la municipalité d'Amsterdam a clairement commencé déjà à modifier en profondeur son quartier rouge.
Oui, le programme est simple. On veut fermer définitivement les lieux de prostitution et créer quelque part en périphérie d'Amsterdam un nouveau quartier rouge. Oui. Il y a un dicton néerlandais pour désigner cette attitude vaguement hypocrite. « Wie sein eigen tuintje wiet, ziet hen onkruid van een ander niet. » Celui qui s'occupe de son jardin ne voit pas ce qui pousse dans celui d'autrui. Hein. Et d'une certaine façon, on repousse ailleurs ce qu'on ne veut pas voir chez soi en croyant que ça n'existe plus.
Merci Joseph pour cette balade au cœur des quartiers rouges, des quartiers à découvrir ou redécouvrir dès que le virus nous le permettra. Merci, à dimanche prochain Joseph.
À tout bientôt.
Et voilà, c'est la fin des Carnets du Monde. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Sans plus tarder, je passe le témoin à Nicolas Carreau qui s'est assis à côté de moi. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Quel est le programme de La Voix est Libre ?
Je reçois Olivier Bourdeau, l'auteur d'En attendant Bojangles, qui revient avec un nouveau roman. On va parler des Minimis et je visiterai la bibliothèque de Benabar.
Merci Nicolas, à tout de suite, bonne émission à vous. On vous donne rendez-vous quant à nous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. D'ici là, portez-vous bien.
Europe 1, les carnets du monde.